Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Il est la vérité. Vous aimez la vérité ? La vérité. Alors, nous allons ce soir, comme on n'est pas nombreux, le jeudi soir, on peut poser plein de questions et avoir plein de réponses. La doctrine sur l'enlèvement de l'Église. D'après vous, combien il y a de textes où il nous est parlé dans le Nouveau Testament de l'enlèvement de l'Église ? À peu près. Combien ? Le texte qui parle clairement que l'Église va être enlevée. D'après vous, une centaine, 300, 162. Combien de textes parlent sur l'enlèvement ? Parce que vous savez, il y a deux choses. Il y a l'enlèvement et il y a le retour de Jésus. Il ne faut pas confondre les deux. Donc il y a des textes qui parlent sur l'enlèvement, quand Jésus va prendre l'Église, et des textes qui parlent sur le moment où Jésus va revenir, 7 ans après l'enlèvement, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, pour régner pendant 1000 ans sur la terre. C'est deux choses bien différentes, donc je sens que je vais gagner le voyage. Alors je ne l'ai pas vérifié, en principe je vérifie. Je vais le faire, je pensais le faire ce matin, mais je n'avais pas le temps bien sûr, parce qu'il faut relire tout le Nouveau Testament. Je vais le faire, mais je pense qu'il y a 136 textes qui parlent de l'enlèvement de l'Église, dans tout le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 136, d'une manière particulière, qui explique qu'un jour, la dispensation de l'Église va s'achever et que les chrétiens, les vrais chrétiens, vont partir avec le Seigneur dans sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être prêt ? Puisque la Bible parle de ceux qui seront enlevés, de ceux qui ne seront pas enlevés, de deux dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Alors, est-ce que ça veut dire que dans un couple, on plouffe, il n'y en a qu'un qui est part ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Quelqu'un me l'a dit un jour, M. Gou. J'ai lu, dans un lit, un sera pris, l'autre enlevé. On est tous les deux chrétiens, qui c'est qui va être pris ? La femme, elle était simple. J'ai dit, mais non, si vous êtes tous les deux chrétiens, vous serez tous les deux enlevés. Mais il est certain que ce n'est pas l'intimité d'un couple, d'un homme chrétien ou d'une femme chrétienne, qui fait que son conjoint va être sauvé. Le salut, c'est quelque chose de personnel, d'individuel. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va lire un texte qui indique ce qu'il faut faire pour être sauvé. On va lire trois verbes. Ces trois verbes vous permettent de savoir si vous êtes prêt. Alors, dans Hébreux, chapitre 9, au verset 27... Il y a un de ces 136 textes. Je vais les vérifier quand même, parce que je l'ai lu dans un livre sur le commentaire biblique, bien sûr. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de bouddhistes, vous savez que même à Toulouse, hein. Je ne sais pas si vous êtes courant, il y a de plus en plus de gens qui croient au bouddhisme. Pourquoi ? Parce que dans le bouddhisme, on vous enseigne que vous êtes continuellement réincarné jusqu'à ce que vous deveniez parfait et que vous obteniez ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que vous soyez parfait et là, vous pouvez donc aspirer à aller au ciel. Donc vous n'allez au ciel que quand vous êtes parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes un être humain, et si vous allez mourir, peut-être que demain, si vous avez été gentil, bon, vous serez un chat, ou moins gentil, une plante verte. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors ça fait sourire, mais il y a plein de gens qui croient en ça. Mais la Bible est catégorique, un homme, il ne peut vivre qu'une fois. Après quoi vient le jugement. Ce moment où on passera devant le Seigneur. Alors le jugement, ce n'est pas forcément synonyme de condamnation. Il faut bien comprendre. La condamnation, c'est pour les gens qui n'acceptent pas Jésus. Jugement, ça veut dire qu'il faut rendre des comptes. Après quoi vient le jugement ? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, la première chose à faire, c'est l'attendre. L'attendre de bon cœur. Est-ce que vous l'attendez, le Seigneur ? Ou est-ce que vous dites, oh non, moi, le plus tard possible, ça sera le mieux. Qu'il vienne le plus tard possible, dans 100 ans, dans 200 ans, moi, ça me va très bien. Est-ce que vous l'attendez ? Parce que qui dit attendre, quand vous attendez quelqu'un, ça vous arrive d'attendre une date, d'attendre, je ne sais pas moi, un séjour, des vacances, Baléares, est-ce que ça vous est déjà arrivez d'attendre quelque chose. Oui ? Vous attendez avec impatience, c'est quelque chose d'important pour vous. Bon. Et là, il y a dans ce mot de l'espérance. Il y a des gens qui attendent, ils sont là, ils veulent être avec le Seigneur. Ils ont besoin d'être avec lui. Ils veulent passer leur éternité avec lui. Alors quelqu'un peut dire, oui, mais l'éternité, justement, puisqu'on va passer l'éternité avec lui, on n'est pas à 100 ans près. Mais je crois quand même que dans le cœur d'un chrétien, il y a ce désir d'être avec lui. L'apôtre Paul, qui connaissait bien le Seigneur, qui avait même été ravi au troisième ciel, il avait fait une expérience particulière. Ce n'était pas une expérience, ça ? Vous vous rendez compte que Dieu avait permis sur la terre qu'il soit ravi au troisième ciel et qu'il aille dans le paradis. C'était quand même, là c'était pas les valeurs là, c'était quand même un peu mieux, non ? Non ? Est-ce que vous vous rendez compte le privilège que cet homme a eu ? Alors c'est vrai que ça, à nous ça nous encourage parce que ça nous montre une fois de plus que tout ce que Dieu a dit est vrai et que toutes ces choses existent. Et il y a quand même un état de cœur. Un chrétien, il attend Jésus-Christ. Il en a besoin, il aspire à ces choses. Je ne sais pas si vous aimez lire l'Apocalypse. Vous comprenez l'Apocalypse ? Pas trop, hein, ce n'est pas évident toujours. Mais quand même, quand vous lisez certaines choses, tout à l'heure on parlait en attendant la réunion de ceux qui seront prêts, qui seront revêtus d'habits éclatants, de fin lin éclatant, pur. C'est quand même... Vous aimez les beaux habits ? Tiens donc, les filles, est-ce que vous aimez les beaux habits ? En tous les cas, au ciel, il y a écrit dans Ézéchiel, je crois que c'est des vêtements brodés. Il y a quand même, je pense que le Seigneur, quand il va nous accueillir, je pense que ça sera bien. Vous croyez que ça sera bien ? Croyez-moi, on va être étonné. C'est dans son cœur. Vous savez, quand il est apparu, l'autre jour, je parlais de Jésus, quand il est apparu la troisième fois à ses disciples, au bord de la mer du lac, ils étaient désœuvrés, il y en avait 7 apôtres là qui étaient là, ils ont été pêchés, et au bout d'un moment, ils avaient travaillé toute la nuit, Jésus arrive, il leur dit, enfants, avez-vous besoin de quelque chose ? Avez-vous pris quelque chose ? Non. Donc Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, ils le font, ils récupèrent 153 grands poissons. Et quand ils arrivent au bord du rivage, Jésus va leur dire, allez vite, nettoyez-moi ça et on va manger. C'est ça qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé ? Comment ? Jésus les attendait avec des charbons allumés, du pain et des poissons rôtis. Voilà, c'est sa façon d'agir. Est-ce que Jésus aurait pu leur dire, écoutez, je vous ai fait pêcher du poisson, vous m'avez reconnu quand même, enfin, c'est la troisième fois, ça commence à faire, hein ? Est-ce qu'il aurait pu leur parler comme ça ? Non, mais nous, on est habitués, mais est-ce qu'il aurait pu leur parler comme ça ? Oui. Bon, maintenant, dépêchez-vous. Je sais que vous avez bossé toute la nuit. Mais enfin, moi, je vous ai fait pêcher du poisson, allez. Voilà, ça, c'est la délicatesse. Et croyez-moi qu'au ciel, on va certainement être très surpris. Le peu que l'on voit dans l'Apocalypse nous laisse penser que ça va être quelque chose de merveilleux. Oui, un chrétien, il attend. Alors, on pourrait prendre plein d'exemples qui nous montrent un état d'esprit. C'est un état d'esprit, attendre. Je l'attends. J'attends vraiment ce rendez-vous. J'ai besoin de ce moment. Pour moi, le jugement, ce n'est pas une condamnation, c'est un moment important. Vous y pensez au moment où vous comparaîtrez devant Dieu ? Est-ce que ça vous arrive d'y penser ? Ce moment où il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ par rapport à ce qu'on a fait. On attend ce moment, c'est un rendez-vous, on en a besoin. On va lire un autre texte sur l'enlèvement qui donne deux autres significations. On n'a pas le temps de tout voir, mais c'est quand même bien. Dans 2 Thessaloniciens, il y a deux verbes. Alors, vous savez que la deuxième épître aux Thessaloniciens parle du jour du Seigneur, justement. C'est un moment où Paul console les chrétiens. Ils sont, comme ça arrive, dans la tribulation, dans l'affliction. Il y a des endroits où vous savez être chrétien, c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, donc, il leur écrit cette lettre sur le jour du Seigneur. Et voilà ce qu'il leur dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance pour punir d'une flamme de feu, oui, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la force et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru, etc. Donc il parle de ce moment. Donc il y a deux choses qui caractérisent des croyants, c'est qu'ils connaissent Dieu et ils obéissent, puisqu'il est dit qu'il va punir ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas. Pourquoi on est là ce soir? On est là parce qu'on aime Dieu, on est là parce qu'on veut le connaître. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Ils croient en Dieu, ils prient Dieu, mais ça ne sert à rien. Ils vont à l'église, mais ça ne sert à rien. Et il y a ceux qui connaissent Dieu. Il y a un texte, moi, que j'aime beaucoup dans les Romains, où il est parlé du jugement, où il est dit, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Franchement, si vous êtes là ce soir, je crois que la première raison, c'est parce que vous vous souciez de connaître Dieu. C'est important de le connaître. Pas d'aller à l'église, de connaître Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il enseigne? Qu'est-ce que c'est cette affaire d'enlèvement? Vous vous rendez compte, il y a des croyants, c'est la preuve qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne savent même pas que Jésus va revenir chercher son Église. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas possible que vous passiez au travers de ces 136 textes. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible. Moi, quand quelqu'un me dit, mais je lis la Bible, je n'ai jamais vu que Jésus revenait nous chercher. Je dis, je ne sais pas comment vous lisez, mais ce n'est pas possible. Donc, Paul dit, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors, quand on connaît Dieu, qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? Qu'est-ce que vous pourriez dire, tiens, ce soir? Si vous deviez mettre les 5 points que vous connaissez le mieux de Dieu, qu'est-ce que vous écririez? Si je vous disais, voilà, il vous faut écrire sur un papier, voilà, les 5 caractéristiques, les attributs que vous connaissez le plus de Dieu, qu'est-ce que vous écririez? Vous m'aidez? Non? Qu'est-ce que vous mettriez? La grâce. L'amour, oui, l'amour, c'est vague. Hein? L'amour, la grâce, la fidélité, sa patience.
Son autorité aussi.
Son autorité. Sa sainteté, oui, qu'est-ce que vous étiez? Voilà ce que je connais de Dieu. Tiens, qui c'est qui a dit la sainteté? La sainteté. Qui a dit la sainteté? Voilà, la sainteté. Est-ce que Dieu est saint? Ouais. Un chrétien qui apprend à connaître Dieu, il apprend à marcher dans la sainteté. C'est évident. Ceux qui ne connaissent pas Dieu s'en fichent éperdument. On va revenir justement dans ce texte des Romains, où il est parlé de ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Un des 136 textes où Jésus dit qu'il va revenir. C'est impressionnant, 136 textes. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait davantage. Parce que, bon, les théologiens, ils ont compté, mais je veux dire, quand on prend les choses... Moi, j'ai lu un texte sur un commentateur qui disait qu'il y avait 42 questions dans le livre de Job. Il n'y a pas 42 questions, il y a des centaines de questions dans le livre de Job. Vous voyez comment on peut se tromper. Dans Actes, chapitre 2, par rapport à ceux qui... Romains, pardon, chapitre 2. Jérémy, n'êtes pas l'intéressant, Jérémy. J'aimerais vous y voir. Ça note, hein. Romains chapitre 1, verset 28. Donc il est parlé, vous voyez, de ce souci, vous voyez. Romains 1, 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu les livre à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Mais il y a ceux qui se soucient de le connaître. Parce qu'on peut les inverser, on peut les inverser. Il y a ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu, donc... C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de vous faire beaucoup de dessins. Vous avez vu tout ce qui se passe. Les gens ne se soucient pas de connaître Dieu. C'est ce qu'on voit avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, ces temps-ci, etc., etc. Mais ceux qui se soucient de connaître Dieu, eux, ils disent, tiens, mais ça c'est quoi? Tiens, justement, au verset 26, qu'est-ce qui nous est parlé? De l'homosexualité. Comment aujourd'hui les églises voient l'homosexualité? Voilà, c'est ça cette question. Comment les églises voient l'homosexualité? Vous avez vu? Ça fait pitié vraiment. Et les gens qui ne se soucient pas de connaître Dieu sont capables de dire des choses abominables. Parce qu'elles sont abominables, c'est pas moi qui le dis, regardez. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous voyez ? La Bible dit que ce sont des choses infâmes, des choses abominables. Donc, vous voyez, c'est ça connaître Dieu. Quand je connais Dieu, je ne suis pas influencé par ce que les protestants, les presbytériens, les méthodistes ont dit sur le sujet. Je sais ce que Dieu dit. L'important, ce n'est pas ce que telle dénomination dit, ce que tel croyant dit. Moi, l'autre jour, j'ai entendu à France Info le directeur d'un journal chrétien, le directeur, et qui disait, mais moi, j'ai lu les évangiles, il était interviewé, bien sûr, par rapport à l'homosexualité, et Dieu est d'accord avec l'homosexualité, puisque toute la Bible nous parle que Dieu nous aime. Et voilà, le gars, avec une assurance, j'aurais aimé être dans le studio, bien entendu. Je vous assure, je pense qu'il aurait, eu mon mot. Mais le gars, il était assurément, il me disait, gars, mais je vous assure, j'ai lu les évangiles et on ne voit que l'amour de Dieu, donc toutes les formes d'amour de Dieu, toutes les formes d'amour sont acceptées de la part de Dieu. Il n'a pas dû lire ce chapitre. L'homosexualité, c'est une abomination, c'est une infamie et c'est à cause de ces choses, c'est écrit plus loin, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Connaître Dieu. Ce soir, je suis là, je veux le connaître. Qu'est-ce qu'il dit sur la sainteté ? Michael parlait de sainteté. Et oui, qu'est-ce que Dieu dit sur pour aller au ciel ? Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une personne me disait l'autre jour, mais est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on peut prier les autres, comment on appelle ? Les autres saints ? Est-ce qu'on peut prier la Sainte Vierge ? Est-ce qu'on peut prier Saint Antoine si on perd les clés ? Il paraît que quand on perd quelque chose, il faut prier Saint-Antoine. Il est spécialisé pour nous faire retrouver les clés. Bon, alors ça fait sourire, bien sûr. Il y a des gens qui le croient. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ? Parce qu'après tout, c'est la parole des uns contre la parole des autres. Comment ? Oui, mais est-ce qu'on peut prier ? D'accord, il faut se repentir, c'est clair. Voilà. Ça, c'est ça connaître Dieu. Il faut se repentir. Mais est-ce que je peux aller au ciel en passant par Marie ? Après tout. Et pourquoi ? C'est bien ça, d'apprendre des versets par cœur. C'est très bien. Acte 4, 12. Vous en connaissez combien, Caroline, de versets ? Acte 4, 12. Et voilà, c'est ça connaître Dieu. Voilà. Caroline, bon alors c'est vrai que c'est pas passé. C'est sûr, c'est mieux de connaître le verset par cœur. Parce que pour témoigner, je crois que c'est bien. Mais voyez, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ça, connaître Dieu. Le seul moyen pour aller au ciel, bon, c'est vrai que les chants, quand ils sont bien inspirés, comme tout à l'heure, voyez, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, je connais Dieu. Je sais que pour aller au ciel, il y a... Qu'un nom. Alors, où c'est qu'il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes ? Où c'est écrit ? Allez, Caroline, c'est où ? Non. Non. Partez, Caroline. 1 Timothée, chapitre 2, verset. Allez, 4. C'est le verset 5, mais c'est le verset 4. Point. C'est ça, connaître Dieu. Enfin, c'est pas parce que je connais la Bible. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand on connaît Dieu, il est évident que l'on connaît également, on connaît par la parole les versets. Mais ce n'est pas parce que je connais les versets que je connais Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? 1 Timothée chapitre 2 verset 4, que Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, quelqu'un qui connaît Dieu... qui vraiment connaît Dieu, il ne priera que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Ou Dieu. Ou le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit ? Tiens, ça c'est une question. Alors on entre dans des gros débats. Est-ce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous voyez un texte où il prie le Saint-Esprit ? Non. Par contre, il est parlé de la communion avec le Saint-Esprit. Mais comme il n'y a qu'un Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas un péché de prier le Saint-Esprit. Mais moi, je ne le prie pas. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau Testament, on ne voit jamais les chrétiens prier le Saint-Esprit. Mais attention, si vous le faites, ce n'est pas grave. Moi, si j'apprenais demain qu'il y a 20 000 Toulousains qui prient le Saint-Esprit, je peux vous assurer que ça me conviendrait très, 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 très bien. Mais mes frères et sœurs, il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui vraiment, il sait ça, il le sait, il prie Jésus-Christ. Il prie le Seigneur, il peut bien sûr soupirer après le Saint-Esprit. Il y a des fois, ça vous est jamais arrivé d'être tellement fatigué que vous avez pas envie de, que vous pouvez pas prier? Est-ce que ça peut arriver? Eh bien, la Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Ça peut arriver d'être tellement écrasé, tellement éprouvé, tellement fatigué, tellement malade, qu'on ne peut même pas parler. Eh bien, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Ça vous est jamais arrivé de soupirer? Est-ce que ça peut arriver de soupirer? Ça peut représenter un ras-le-bol, mais ça peut représenter une véritable prière. Connaître Dieu, c'est ça. Je sais qu'il y a qu'un nom qui a été donné. Acte 4.12. Je sais qu'il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Je sais, comme disait Mme Guilabert, il faut passer par la repentance. C'est ça, connaître Dieu. Parce que la Bible dit que sans la repentance, personne n'ira au ciel. Vous vous rappelez un jour où des gens ont posé la question à Jésus. Il y a une tour, vous savez, qui était tombée sur 18 personnes. Vous connaissez ce texte? Il y a une tour, parfait, elle est tombée sur 18 personnes. Et là, les gens, ils ont dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens, pour subir tel châtiment? Et Jésus va donner tout à l'ancien, et il dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent dans des conditions bizarres parfois. Vous ne trouvez pas qu'il y a des morts bizarres? Vous ne trouvez pas qu'il y a des gens qui meurent? On apprend que telle personne est morte comme ça, comme ça. Ça fait drôle quand même, hein? C'est vrai, hein? Mais Jésus dit, ne regardez pas trop la façon dont quelqu'un est mort. Ce qui est important, c'est que la personne se repente. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui, incontournablement, il est passé par la repentance. Et quand, dans le texte qu'on a lu, il est dit que le Seigneur punira ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est clair, c'est pas parce qu'il y a des gens, ils sont dans l'église, il y a plein de gens ici, ils sont dans l'église, mais moi je peux vous dire, ça me brise le cœur, ils ne sont jamais passés par la repentance. Ils ont regretté le péché, ils ont dit, ouais, c'est pas bien, parce qu'on a une conscience. Imaginez, le gars, il vole, imaginez, le gars, il vole. Quand il vole, il se sent pas bien. C'est normal ou c'est pas normal? Mais sinon, en tous les cas, au début, c'est normal. La conscience, elle travaille. Ah, je regrette, je suis un voleur. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est repenti. Jésus a pas dit, regrette, c'est pas bien. Il a dit, repentez-vous. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui se repent. Il connaît Dieu et il obéit. C'est mon dernier point. Il obéit. Ça peut nous arriver à tous de mal réagir. Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver de mal réagir? Est-ce que ça vous arrive des fois de mal réagir? Oui? Bon, moi aussi, ça arrive. Regardez le comportement. J'ai pensé à lui tout à l'heure, parce que c'est, ça fait mal au cœur. Dieu lui a parlé verbalement. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, on voit deux hommes. En plus, c'était des gens qui avaient des parents bien. Moi, je trouve... Est-ce qu'ils étaient bien, les parents de Caïn? Est-ce qu'ils étaient bien? Est-ce que c'était des alcooliques? Est-ce que c'était des... Hein? Est-ce qu'ils étaient bien, Adam et Ève? Ben oui, ils étaient bien, bien sûr. Donc, le temps était venu d'offrir un sacrifice à Dieu. Il y a un moment donné, il faut offrir sa vie, il faut offrir quelque chose au Seigneur. Donc, Abel offre un sacrifice, une viande, un mouton... Et Caïn offre les fruits de la terre. C'est quoi le plus difficile? Offrir un mouton ou offrir des légumes? Comment? C'est le plus difficile? Moi, je pense que le plus facile, c'est le mouton. Parce que cultiver des légumes, c'est du boulot. Oui ou non? Parce qu'un mouton, il faut juste le parquer, vous pouvez dormir, il mange tout seul. Tandis que les légumes, les légumes, c'est le travail. On voit qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc, Caïn fait quelque chose de plus difficile, de plus compliqué, et il offre ses légumes à Dieu. Mais Dieu n'approuve pas ce sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il fallait un sacrifice sanglant, qui préfigurait la venue de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, que du sang allait être versé. Chaque fois qu'il est parlé du sacrifice, ça nous ramène toujours au sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix, on l'a chanté tout à l'heure, et il fallait que le Christ meure sur le bois de la croix pour que nous puissions obtenir le pardon des péchés. Et d'ailleurs, quand il est dit deux fois dans le Nouveau Testament, malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. La voie de Caïn, il a offert des légumes. C'est quoi cette affaire? Malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. Oui, parce que ça représente les gens qui veulent être sauvés par les œuvres. Et d'ailleurs, la réaction de Dieu, regardez, c'est ça qui nous est important par rapport à l'obéissance. Donc, verset 5. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn, regardez sa réaction. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, oui, ça, Dieu aurait pu dire, bon, il est irrité, il est en colère, je m'éloigne. Non, le Seigneur va s'approcher. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Oui, on voit que Dieu, par la question, les questions de Dieu, elles sont toujours intelligentes, c'est pour rattraper la communion. Oui ou non? Des fois, nous aussi, on pose des questions à quelqu'un, comment tu vas? S'il est malade, on ne sait pas quoi faire, mais je veux dire, c'est une façon de rentrer en contact avec. Lorsque Dieu pose une question, c'est toujours dans le but de retrouver la communion. Quand Jésus, la première question, c'est à Adam, quand il dit, mais où es-tu? Est-ce que Dieu savait où était Adam? D'après vous, est-ce que Dieu cherchait, hein, il est perdu? Je pense que Dieu devait savoir où était Adam. Mais où es-tu? C'est une façon de rétablir la communion. Parce que s'il y a bien quelque chose que Dieu veut, c'est la communion. Même si c'est par des questions qui sont peut-être qui nous gênent. Mais ce n'est pas grave. Donc l'Éternel pose la question, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est évident. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et Dieu donne toujours la solution de toute façon. C'était pas merveilleux ça? Vu la réaction, la façon dont Dieu dit, mais écoute, surmonte le mal par le bien. On ne le voit pas ça dans la Bible? Voilà, tu t'es loupé, tu as fait une erreur, tu aurais dû demander à ton père. Il te l'aurait dit. Est-ce qu'Adam savait qu'il fallait offrir un sacrifice sanglant? Oui. Si Abel l'a fait, c'est parce qu'il avait compris. Et il faut écouter. Et il faut écouter ses parents. Est-ce que c'est important d'écouter les gens qui savent? Eh oui. Caïn, il a fait à sa tête. On ne fait pas les choses à notre tête. Alors on peut bénir Dieu pour sa miséricorde qui vient et qui revient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la troisième fois, il est venu, Jésus. Il aurait pu... En plus, il y en a certains, ce n'était pas leur place. Ce n'étaient pas des pécheurs. Je reviens à mon histoire. Quand on est des œuvres, on fait des bêtises. Ça n'empêche pas que le Seigneur sait nous rejoindre. Mais... apprenons à bien réagir. Je me suis trompé. Caïn aurait dû dire, oh, Seigneur, je te demande pardon. La prochaine fois, moi aussi, je t'offrirai un agneau. Est-ce que le problème était réglé? Est-ce qu'il aurait été réglé le problème? Eh oui, le problème était réglé. En plus, Dieu lui dit, fais attention, le péché se couche à ta porte. Vous connaissez cette affaire quand le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et l'obéissance, c'est quelque chose que Dieu aime. L'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Et Caïn, lui, il s'entête, et voyez, cependant, verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, parce que vous voyez, c'est la preuve que Abel aussi cultivait les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Non mais, ça vous montre combien le péché, c'est en crescendo. C'est rare qu'un péché aille seul. Regardez, David, il a trompé. Il a couché avec Bathsheba. Ça, c'est la deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un officier, un type bien. Il n'a pas tué un bandit. Ça aurait été un bandit, ce n'était pas grave. Mais il a tué un homme intègre. Ça, c'est grave aux yeux de Dieu. Et souvent, c'est comme ça. Un péché ne va jamais seul. Il aurait dû dire à son frère, écoute, tu sais pas, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que ça n'allait pas. Ce que j'ai fait, ça n'y a pas plus du tout. Et bien, la prochaine fois, je ferai comme toi. On va en discuter avec papa, avec maman. Mais voilà, c'était réglé. Mais voyez comment. Et pourtant, il vivait dans un environnement, je pense qu'il ne devait pas être beaucoup influencé par Internet, par la télé. Je pense, ou par les lectures. Mais voyez comme quoi, c'est dans le cœur. Apprendre à bien réagir, apprendre à obéir. Franchement, ça vous montre combien le cœur de l'homme, il est compliqué. Il aurait dû tomber à genoux, ou assis, je ne sais rien, et dire, merci Seigneur, merci. Je vais obéir. Je ferai les choses comme il faut. Et quand on voit la suite, malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur y revient pour ceux qui l'attendent. il y a une bénédiction d'attendre le Seigneur. Il y a une bénédiction. Pour ceux qui le connaissent, qui disent, voilà, tiens, mais moi aussi je veux bien réagir. Je me suis loupé. Seigneur, je te demande pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je le fais. Moi, je le vois dans l'église. Le nombre de gens qui se sont loupés et qui sont bénis parce qu'ils disent, voilà, c'est bon, j'ai compris. Et puis ceux qui s'enferment dans leur désobéissance, et ils s'empirent. Je le vois. Ça fait 32 ans que je suis pasteur, je n'ai fait que ça. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. On réagit bien. C'est rare qu'on reste neutre. On reste neutre un mois, deux mois, mais pas plus. Après, on est obligé de prendre une décision. La neutralité, c'est normal. On a besoin d'analyser, de réfléchir. C'est biblique. Le fait de prendre le pain et le vin, c'est une façon de s'éprouver soi-même. Vous voyez, de dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Seigneur, aide-moi, etc. Mais Abel, prenez compte, Dieu va vers lui. Il lui parle. Il ne trouve pas mieux que de s'énerver. Il s'est irrité. Tiens, il s'est irrité. Est-ce que c'est normal de s'irriter? Tiens donc. Est-ce que ça peut arriver de s'irriter? Eh oui. Si vous vous mettez en colère. Le mot, c'est si vous vous irritez. Ça peut arriver. Mais il y a s'irriter 5 minutes, un quart d'heure, et puis que la colère soit intériorisée et qu'elle se transforme en haine. Parce que s'il a tué son frère, c'est parce qu'il a eu de la haine pour lui. Il aurait dû dire, youpi, le Seigneur m'a parlé, je sais ce qu'il me faudra faire pour le prochain sacrifice. D'ailleurs, je demanderai à mon frère qu'il me donne un mouton. Moi, je lui donnerai 3 tomates et 3 carottes et lui me donnera un agneau. Est-ce que ça aurait pu se passer comme ça? Mais ouais. Vous voyez comme on est compliqué. En tous les cas, une chose est sûre. Le Seigneur, il va revenir. Il va prendre son église et il prendra les gens qui sont remplis d'espérance. Oui, je veux vivre avec le Seigneur. Je suis étranger sur la terre. Je peux. Vous avez du mal à vivre avec tout ce que vous voyez ici-bas. Hein? C'est bien. C'est bien de dire, mais ce n'est pas ma place. Donc, j'attends le Seigneur, mais j'obéis et je le connais. Et la meilleure façon de connaître Dieu, eh bien, c'est de prendre la Bible et de dire, Seigneur, apprends-moi à te connaître.